Tous ou Rien est une émission entièrement consacrée à explorer le monde de F. Merjanov.
Une personne dont nous ne savons rien, ou presque.
Une vie réduite à quelques lignes, des lieux, Nice et la mer Noire, une date, 1970.
Et aussi quelques mots essentiels. Macédoine, nihilisme, apiculture et rien.
Mais rien de plus.
Si nous ne savons rien de son genre, nous pouvons affirmer son appartenance aux hominines.
C'est-à-dire à la vaste famille qui va de Lucie, l'Australopithèque, à Conan le barbare, en passant par Néandertal. L'humanité actuelle est ce qu'il en reste.
Dans cette émission, nous employons le terme hominine pour parler des êtres humains. Quel que soit leur genre ou leur sexe, il nous permet de contourner les contraintes grammaticales sur le masculin et le féminin. Nous précisons seulement lorsque cela est nécessaire.
Tous les mois, l'émission Tout sur Rien propose des biographies d'hominines inconnues ou des démystifications d'idoles, des explorations géographiques insolites ou des réalités sociales singulières.
Elle tisse des liens entre F. Merjanov et sa réalité avec une bonne dose de capillotraction. L'art de tirer par les cheveux.
Elle se nourrit de toute l'absurdité du monde pour mieux le vomir.
Elle réhabilite des hominines qui comptent pour rien dans l'histoire avec un grand H.
Elle reprend à son compte ces mots d'un célèbre écrivain inconnu.
Dans nos familles, on boit dans des verres à moutarde. Nous ne sommes pas des aristocrates, nous manquons d'élégance et notre race est incertaine. Mais nous n'oublions rien.
François Augiéras, pansexuel naturophile.
Pétro-corien. Après leur mariage, en septembre 1915 après JC à Paris, le couple Pierre Augiéras et Suzanne Kaczynski s'installent aux États-Unis d'Amérique en 1922. Lui est pianiste et compositeur et vient d'obtenir un poste à l'école de musique Eastman de Rochester dans l'État de New York. Et elle est peintre sur porcelaine. De la rencontre entre ces deux hominines, François naît en juillet 1925 à Rochester, 3 mois après la mort prématurée de son père pour cause d'appendicite purulente. La mère et son nourrisson quittent le pays et viennent habiter à Paris. En 1933, ils partent pour le Périgord, d'où sont originaires les grands-parents paternels de François, et se posent dans la ville de Périgueux. Quitter l'univers parisien pour l'espace pétro-corien est pour lui un soulagement. Pétro-corien est ce qui est relatif à Périgueux, la déformation de Pétrocor, une tribu gauloise vivant dans la région. Après un début de scolarité à Paris dans un établissement catholique privé, où les punitions et les brimades sont des méthodes éducatives, le jeune François Augiéras se désintéresse peu à peu de l'école et préfère puiser lui-même dans les œuvres littéraires disponibles à la bibliothèque municipale de Périgueux. Il découvre la philosophie d'Arthur Rimbaud et la poésie de Friedrich Nietzsche. Il quitte l'école à l'âge de 13 ans pour suivre des cours de dessin.
Après la noirceur de Paris qu'il a détestée, le jeune néo-pétrocorien découvre les alentours de Périgueux et la verte campagne périgourdine. Cela l'enchante. Petit à petit, il explore les chemins et les forêts, à pied et à vélo, et son esprit papillonne dans les rayons de la bibliothèque. Ce grand garçon candide et sale, selon les bibliothécaires, est un habitué de ce lieu fréquenté aussi par quelques réfugiés cherchant la chaleur du poêle. Depuis l'occupation du nord de la France par les armées hitléristes, le sud du pays est dirigé par un gouvernement qui siège à Vichy. Les deux grandes questions existentielles qui se posent à ce dernier sont « Que faire pour l'avenir de la jeunesse et des Moïsiens ?» Pour celle-ci, Vichy opte rapidement pour les livrer à la mort, les donnant aux hitléristes ravis. Alors que pour la jeunesse, il est mis en place plusieurs programmes pour la revivifier. Les activités physiques de plein air et la pratique sportive sont fortement encouragées.
Fuck.
Attiré par ses possibilités de découverte, François Augiéras rejoint en 1941 la Jeunesse de France et d'Outre-mer, JFOM, une organisation de jeunesse financée par l'État, puis en parallèle la Société Périgourdine d'éducation sportive, une association royaliste de scoutisme. La première est antichrétienne et hitlérophile, alors que la seconde est chrétienne et nationaliste. Plutôt motivé par les opportunités d'excursion, le jeune François n'est pas très réceptif aux discours politiques et pas très enclin aux aspects paramilitaires des organisations de jeunesse.
Le christianisme est fortement menacé. On revient à la terre. Les imbéciles en profitent pour faire du giono, du péténisme, du provincialisme. Je n'ai pas l'intention d'être les leurs, mais de profiter des circonstances pour m'avancer du côté des forêts et des sources. Pour tenter de n'être pas chrétien, pour aller en direction des nouvelles aventures de l'esprit. Les gens de mon espèce étant toujours à leur affaire quand tout retourne, si ce n'est au chaos primordial, tout au moins à la demi-barbarie, qui est le seul niveau qui leur convienne à peu près. Le germanisme m'intéressait comme un retour aux forces cosmiques, solaires, la vraie religion de l'Europe. Seulement sur ce point. J'ignorais les crimes nazis, le racisme, l'antisémitisme. Dès que j'en aurais connaissance, je prendrais mes distances, aussitôt. Je n'étais pas idiot. Très vite, j'allais me rendre compte que le nazisme discréditait précisément la philosophie allemande, Nietzsche, Schopenhauer, que j'aimais. Extrait de « Une jeunesse au temps du maréchal ».
Ses réticences et sa désinvolture lui valent des critiques de la JFOM. Censé garder la nuit des voies ferrées, il découvre la nuit et les étoiles en oubliant son rôle de sentinelle. Envoyé pour une quelconque tâche, il s'égare et revient avec des bouquets de fleurs. Il quitte ses mouvements de jeunesse en 1942, juste quelques mois avant que la JFOM soit intégrée à la milice naissante.
N'être rien, c'est être suspect de tout.
François Augiéras, âgé de 17 ans, enchaîne les petits boulots et la débrouille pour faire face aux pénuries. Après un stage près de Périgueux, il rejoint la troupe du Théâtre du Berger qui organise des spectacles de marionnettes. Il aide à la construction des décors et tient le rôle de Ève lors des représentations théâtrales qui se montent pour une tournée jusqu'à Limoges en passant par Tulle, Brive ou Guéret. La situation politique et militaire s'aggravant toujours plus, la troupe décide de se dissoudre au cours de l'hiver 42-43. Il adhère alors aux Compagnons de France avec lesquels il encadre de jeunes délinquants au château de Marsac. Mais son manque d'autorité et sa connivence avec les jeunes hominines qu'ils laissent faire ce qu'ils veulent lui valent d'être viré. Il part quelque temps travailler dans la ferme potager d'un curé, aumônier des Bretons du Périgord. Désœuvré, François s'installe chez sa tante au sud de Périgueux. À la demande des autorités hitléristes, le gouvernement de Vichy met en place le service du travail obligatoire, STO, en 1943, avec pour objectif de fournir plusieurs centaines de milliers d'hominines pour servir de main-d'œuvre en Allemagne. Les réfractaires sont nombreux. En 1944, François Augiéras, éligible au STO, se rend à Toulon et s'enrôle dans la marine. Il patiente au 5e dépôt des équipages de la flotte, puis s'embarque direction l'Algérie. Destination le cap Matifou, à une vingtaine de kilomètres d'Alger, où un centre d'entraînement pour futurs marins et fusiliers, engagés ou conscrits, s'organise sous le commandement des Forces françaises libres, FFL, les militaires renégats au régime vichyste et leurs troupes coloniales.
De temps en temps, j'ai tes nouvelles. Je fais un puzzle de tes petits mots. J'ai ma collection de photos de bouteilles et des frangins sur les cargos. Par écho t'efface, tu racontes
que j'étais pas à la hauteur. Et côté pile, t'avais honte de mes petits talents d'amateur. Est-ce que c'est bon l'amour avec les militaires? On dit que tu pousses ta flemme les jours de sperme sur une civière que le reste de la semaine t'envoies en l'air même l'armée de terre. Et que tu fais chanter, que tu fais les légionnaires. De temps en temps j'ai tes nouvelles, téléphone arabe à l'envers. T'as grandi ta clientèle, drôle, drôle de service humanitaire entre marine et armée de l'air. De chef de poste en sentinelle au bataillon disciplinaire, t'es de moins en moins confidentiel. Est-ce que c'est bon l'amour avec les militaires? On dit que tu te déguises les soirs de mouise en infirmière, l'œil bleu de méthylène, des petites croix rouges à tes jarretières. Et que tu fais chanter, que tu fais les légionnaires. La musique militaire, ça me donne le mal de mer. D'abord je hais les vents du sud, t'es à la menthe la solitude et le sable du désert qui colle à la peau. Je referme ma fenêtre au vent de sable, je regarde mes gardes d'état-major. Entre mes deux draps charitables, je m'éponge un peu et je m'endors. De temps en temps, j'ai tes nouvelles, je fais un puzzle de tes petits mots. Un de ces soirs, mon hirondelle, on se retrouvera sur les cargos. Un de ces soirs, mon hirondelle, quand tu te lasseras du sirocco.
Aérien. À partir de novembre 1944, il obtient plusieurs permissions de longue durée, car l'armée doute de son équilibre psychique et le met en observation psychiatrique entre chaque permission. Il est même emprisonné brièvement pour avoir ramené des poux dans la caserne. Finalement, son contrat est résilié et il est démobilisé. Son choix de visiter l'Algérie, El Djezaïr, est fait. De plus en plus empreint d'un rapport mystique à la « nature », il rêve de partir dans le Grand Sud algérien. Il décide, en 1947, de se diriger vers l'oasis saharienne d'El Goléa, à environ 270 km au sud-ouest de Gardaïa, pour y rejoindre son oncle paternel, Marcel Ogieras. Engagé en 1902 à l'âge de 20 ans, ce dernier fait toute sa carrière dans l'armée coloniale au Sahara. Explorateur et cartographe, il publie ses travaux et relevés pendant une vingtaine d'années, pour lesquels il reçoit plusieurs prix et récompenses et est membre de l'Académie des sciences coloniales. Lorsque son jeune neveu arrive, en 1945, l'oncle militaire est à la retraite, avec le grade de colonel et plusieurs décorations. Entouré de domestiques, il habite dans un vaste bâtiment de l'oasis d'El Goléa, dans lequel il a installé un petit musée ethnographique d'objets ramenés lors de ses périples sahariens. Considéré comme un scientifique par certains, un excentrique un peu illuminé pour d'autres, les rumeurs sur ses pratiques sexuelles vont bon train dans la population. Les jeunes hominines mâles du cru semblent avoir sa préférence.
L'édifice admirable des étoiles brillait sur les roseaux, sur les eaux. Au loin, le musée de mon oncle. À l'écart des autres hommes, une pensée dont je comprenais enfin la valeur inestimable, la solitude. Rien ne se fait de grand que dans le silence et dans la solitude. François Ogieras, Le voyage des morts.
La rencontre entre François et Marcel, le neveu et l'oncle, est faite de discussions et de théories sur l'univers et son immensité, sur les ondes cosmiques que le vieux militaire pense pouvoir démontrer, et d'échanges entre un jeune chercheur de l'absolu et un vieux briscard des espaces sahariens. Des proximités se tissent, des contacts. L'oncle se délecte de la chair de son jeune neveu. Hors de ses escapades nocturnes dans le lit marcelin, François aide les domestiques, nourrit les animaux et s'occupe des vitrines du musée. Lors de ce séjour, François découvre son attirance pour les mâles et s'émoustille de certaines de ses rencontres. Il rentre en France et retourne à Périgueux chez sa mère. Troublé par son voyage saharien, il décide de repartir pendant l'été 1948. Cette fois-ci, les relations entre les deux hominines s'enveniment. Repoussant les plaisirs charnels instaurés par son oncle, François se fait chasser d'El Goléa. Retour à Périgueux.
Hello, today we're here in Périgueux, which is the capital of the Dordogne. And right behind me here, you'll see the Tour Matagur. This is the only remaining tower of what used to be 28 towers and 12 gates. And it was a fortified city, and the whole city of Périgueux was inside this tower. But today it's market day, so let's not stick with the tower today. Let's go on and go to the market. So as you can see behind me is a little stall selling foie gras, which is very, very popular in the Dordogne area, and also coquinettes, which are little balls of foie gras, but I won't go into too much detail, but you can see a little picture of them behind there. So again, very, very local, very locally produced foie gras.
Regroupant ses écrits de voyage, François Augieras publie en 1949 à compte d'auteur Le vieillard et l'enfant, avec l'aide financière de sa tante. Pliage à la main, assemblage et couture à la ficelle de charcutier avec une grosse aiguille à tricoter. Enfin, collage des couvertures à la colle chaude de menuisier, selon Pierre Fanlac, à l'époque apprenti éditeur-imprimeur à Périgueux. Il est signé du pseudonyme d'Abdallah Chamba, en référence au jeune berger Abdallah, appartenant à la Confédération des Chamba, qu'il rencontre autour d'El Goléa. Malgré les réticences du typographe, qui refuse dans un premier temps de s'occuper de ce texte, qu'il juge odieux, le tirage est d'un peu plus de 200 exemplaires. Autobiographique en partie, ce roman raconte l'histoire d'Abdallah, un jeune Algérien qui se prostitue avec un vieux militaire chez qui il est domestique. Les maisons d'édition contactées ne donnent pas suite. Les librairies locales refusent de le prendre et il se diffuse de manière confidentielle. Confiante dans les talents littéraires de son neveu, sa tante lui fournit l'argent nécessaire à un voyage sur Paris, où François Augieras distribue des exemplaires auprès d'éditeurs et dans les boîtes aux lettres de certains auteurs connus. André Gide et quelques autres sont très sensibles à son écriture et aux thèmes développés, mais s'interrogent sur ce mystérieux Abdallah Chamba que personne ne connaît. En 1951, après quelques échanges de lettres, le pétrocorien François Augieras rencontre le pulmonérien André Gide, quelques semaines avant sa mort.
Je voudrais savoir à qui je dois m'adresser, qui je puis remercier pour l'intense et bizarre joie que je prends à la lecture, et à la relecture, de ces pages remarquables entre toutes. Je supplie l'auteur de m'en réserver un exemplaire. Le vieillard et l'enfant ne peut trouver un lecteur plus attentif et plus ravi qu'André Gide. Lettre d'André Gide à François Augieras, datée du 30 mars 1950.
Les éditions de Minuit publient Le vieillard et l'enfant en 1954, toujours sous le pseudonyme d'Abdallah Chamba. Dans un contexte français où l'homosexualité est pénalisée, où les personnes concernées doivent se cacher, parfois fuir des violences, le livre est subversif. En 1949, un décret de la préfecture de police de Paris stipule qu'il est interdit pour deux hominines mâles de danser ensemble. Dans Le vieillard et l'enfant, l'homosexualité y est assumée alors qu'elle est moralement blâmée. Comment découvrir et vivre son homosexualité lorsque tout se vit dans le secret? S'expose-t-on à plus de violences sexuelles? Il rappelle aussi que dans un contexte colonial, l'asservissement sexuel des jeunes hominines est une pratique réelle de la part de colons. M'identifiant aux enfants malheureux d'Algérie, je commence à écrire, attaquant à travers le thème du vieillard et l'enfant un certain colonialisme abominable.
Mais qui lira jamais les livres que j'ai écrits? dans l'obscurité où je vis, ils sont encore comme enfoncés dans le ciel noir et menacés quand ce ne serait que par ma mort. Mes lèvres n'embrassaient que les roches, ce n'est que sur la photo qu'il a prise de moi que mon visage a paru, puis il l'a détruite. Et cette nuit, j'ai le désir de peindre, et moi qui suis né des révoltes coloniales, je dois cacher ce que je fais. Briser sur ce lit à ciel ouvert, la nuit étoilée rafraîchit mon visage. Si cet homme savait ce que j'écris, je serais aussitôt emprisonné et roué de coups jusqu'à en mourir. La nuit jouée au gré de mon esprit, je n'en peux plus, je monte à sa terrasse. L'horreur que j'ai de son corps n'est pas plus cruelle que l'éternel passage des nuages. Qu'ai-je à voir avec lui, pensais-je, tandis qu'il peine au-dessus de moi sur ce mauvais lit de fer. De douleur, mes ongles s'enfonçant dans le matelas. Cet homme qui me force à je ne sais quelle écriture. Les premières lettres de moi ne furent-elles pas l'esprit creusé par mes ongles sur le drap blanc qui cherche son plaisir et m'apprend à son insu une écriture face au ciel noir.
Le livre étonne par son style et choque par son propos. En un temps où des braves Français qui avaient manifesté moins de zèle à l'encontre des nazis se vantaient de casser du PD les soirs d'ennui. L'ouvrage n'est pas frappé par la censure de l'État français. Des rumeurs prétendent qu'Abdallah Chamba est peut-être le pseudonyme d'André Gide pour cette œuvre posthume.
Brigade Square et Jardin, c'est une brigade de policiers qui fait des descentes dans les lieux réputés homosexuels, de drague, exactement. La préfecture tient un registre avec vos noms, le nom des homosexuels, le registre des pédérastes. Est-ce que vous, vous avez été aussi traqué comme ça?
Bah oui.
Comment ça se passait concrètement?
Alors, ils arrivaient, ils coinçaient les issues et ramassaient tout le monde. Ils nous mettaient dans des paniers à salade, on appelait ça des paniers à salade.
Donc des estafettes?
Des estafettes, on était secoués comme ça, c'est pour ça qu'on appelait. On arrivait au commissariat et on était comme des délinquants, empreintes, menottes, et on était fichés. Donc quelquefois on restait 2 jours.
Tenu au courant de la sortie du livre, l'oncle Marcel, à juste titre, se sent visé. Il est en colère. Il envoie en avril 1955 une lettre au responsable des éditions de Minuit pour lui faire part de son étonnement. Il rejette les accusations et menace de porter l'affaire en justice. Il nie les violences sexuelles et se dit victime d'une basse vengeance de la part de son neveu qu'il décrit comme dépravé et menteur. Comme il est de coutume dans ce genre de situation, il emploie tous les registres pour discréditer son neveu. Sa moralité et ses piètres qualités littéraires ne sont rien face à la déférence qui est due à un vieux militaire après une vie de travail et d'honneur. Plus le piédestal est haut, plus la chute est lourde. Il demande que le livre soit retiré du catalogue et de la vente, et que le projet de publier Le Voyage des Morts soit abandonné. Finalement, il n'y a pas de suite judiciaire, et à sa mort en 1958, les archives de Marcel Augiéras sont purgées afin de ne point ternir la mémoire de cette grande figure scientifique.
Sous ce pseudonyme d'Abdallah Chamba, Zirara est publié en septembre 1957 dans le 3e numéro de la revue Structure, puis dans un tiré à part. Et Le Voyage des Morts est édité en 59 par les éditions La Nef de Paris. Il y relate la décennie 1950, lors de laquelle il parcourt le Maghreb. Dans Zirara, il est méhariste, pendant quelques mois, chargé de défendre le fort du même nom dans le désert saharien, se remplissant de l'immensité des espaces, fasciné par le désert et le ciel. Dans Le Voyage des Morts, il est un berger, un prostitué, un vagabond, se nourrissant de rencontres et de solitude. Il repense à sa relation sadomaso avec son oncle. Il concrétise ses attirances homosexuelles, librement consenties, attise ses penchants hétérosexuels dans les bordels et expérimente une sexualité zoophile. Autobiographique, ce voyage est onirique. Les confessions brûlantes d'un jeune nomade nietzschéiste.
Je suis proche des bêtes, des agneaux, auxquels je suis du reste uni par des rapports sexuels. François Augiéras, Le Voyage des Morts.
François Augiéras se sent en symbiose avec la nature et le cosmos. Il se donne charnellement à l'une et se laisse totalement pénétrer par l'autre. Naturalisme et mysticisme sont le rapport qu'il entretient avec ce qui l'entoure, hominine ou non, et ce qui l'englobe. Inventeur de ses propres rituels, il se fait chaman de ses propres croyances, Adepte d'une divinité sans religion, il se pense immortel, ayant déjà vécu auparavant dans une autre vie. L'insolation et les mirages des déserts sahariens ne sont pour rien dans cet état psychologique. François Augiéras s'invente.
Ma plus belle œuvre d'art, serait-ce ma vie ?
Vézérien. En 1960, François Augiéras épouse sa cousine, Viviane de la ville de Rigné, fille d'un neveu de Marcel Augiéras. Elle a 18 ans et lui 35. Cette relation ne dure pas et se soldera par un divorce après quelques années. De par son caractère difficile, le couple, l'hétérosexualité et l'amour ne sont des remèdes à rien. Alors, après un premier voyage en 1956, la Grèce et des séjours au Mont Athos sont un complément alimentaire à son déséquilibre artistique. Il s'initie aux techniques picturales des icônes religieuses des chrétiens et aux retraites spirituelles dans la République monastique du Mont Athos, ce petit territoire autonome de la Grèce qui est strictement interdit aux femelles, hominines et autres espèces domestiquées, à l'exception des poules et des chattes, aux enfants mineurs, aux hominines mâles sans pilosité et aux eunuques. La tentation sexuelle serait trop grande selon ces règles monastiques, comme en témoigne Marie Choisy, qui, déguisée en hominine mâle, passe un mois clandestinement dans un monastère en 1929 et est confrontée aux avances d'un des moines. Ne rentrant pas dans son catalogue ségrégationniste, François Augiéras s'est autorisé à séjourner parmi les moines. À l'image de ses expériences extatiques et fusionnelles avec les immensités du désert et son ciel infini, il explore la solitude, le silence, le retrait. Il s'imagine devenir seul sa propre communauté par le retrait.
Instant délicieux de la fin de nuit. Pas un souffle de vent. On ne voit rien au monde. C'est une absence de tout. Les moments ne sont plus faits que de rien. Tout paraît suspendu. L'air immobile n'agite pas une branche. Plus un oiseau ne chante. On ne ressent que le charme intensément répandu de la vie souterraine de la terre et du ciel. Si puissamment qu'il n'y a qu'à y puiser pour en tirer ce qu'on veut. François Augiéras, l'apprenti sorcier.
Si j'étais un arbre, on pourrait faire de moi des crosses et des cercueils sans que j'y puisse rien. Si j'étais de la terre, on pourrait me morceler, m'entourer de barbelés, sans que j'y puisse rien. Si j'étais une pierre, on pourrait me lancer contre toi, sans que j'y puisse rien. Si j'étais de l'herbe, si j'étais de l'eau, si j'étais de l'air.
Hormis ses voyages en Grèce, François Augiéras vit à Périgueux, mais il n'a de cesse de parcourir la campagne pétrocorienne entre Périgueux et le village de Dôme, à une soixantaine de kilomètres au sud-est. Dans ce pays sarladé, il s'enchante pour la Vézère, cette petite rivière qui s'écoule sur 200 kilomètres avant de se jeter dans la Dordogne. la région est son lieu de retraite et d'ouverture à d'autres sensations. Sa démarche est sensible. Il déambule le long du cours d'eau, s'y baigne, sent et regarde ce qui l'entoure, goûte et se délecte des odeurs et des lumières. Il s'émerveille des falaises, se frotte aux pierres. Les plaisirs et les sensations sont multiples. Lors de ce déblaiement, je dégage ce qui est immuable, intemporel, mon moi sauvage, ma primitivité et mon instinctivité, en fait, ma primauté. Je ne confonds plus mon but et ma fin. Féral je deviens, affranchi et libre, absolu, autonome. Nomade du moi, mon territoire est sans frontières. J'existe au-delà de ce que je suis, comme un homme sans qualité. Cette citation, extraite d'un texte attribué à F. Merjanov, résume l'état d'esprit naturophile pansexuel de François Augiéras.
Du revers de ma lame, j'écartais une feuille quand un jeune arbre aux écorces saines et luisantes m'apparut dans toute sa beauté. Il s'élevait assez haut dans le ciel et aussitôt je l'aimais. J'appuyais ma joue contre lui, je l'aimais d'amour. Dans l'obscurité, la féminité l'emportait en moi sur la virilité, en raison de mon désir de passer du côté des sources et des charmes et de trahir ainsi les humains dans le temps de la nuit. À genoux, au pied de l'arbre, mes lèvres sur ses douces écorces, je lui parlais tendrement en une sorte de murmure demi-chanté, tiré du plus profond de mon être et de ma vérité. Un chant rauque, modulé dans la gorge comme un feulement de bête. Je défis la boucle de ma ceinture, j'enlaçai l'arbre et je fis la femme avec lui, torse nu, les flancs nus, serrant le tronc entre mes cuisses. Je sombrai ainsi dans la volupté pure et simple, absolue, délicieuse.
François Augiéras, l'apprenti sorcier.
Solitaire, ses proches se comptent sur les doigts d'une main d'imprimeur ou celle d'un menuisier. Il sait se faire détester. Que ce soit dans son quotidien impérigueux ou lors de ses périples vézériens, François Augiéras n'a de cesse de griffonner sur des cahiers d'écoliers. Le solitaire a des choses à dire aux autres, mais les lettres ne suffisent pas, alors il peint, encore et encore. Les éditions Julliard publient L'apprenti sorcier en 1964. L'histoire des amours entre le narrateur, un jeune hominine adolescent, qui vit en parallèle et dans le secret, une relation masochiste avec le prêtre qui l'héberge et un garçon du village de quelques années plus jeune que lui. Seul écrit non autobiographique, il est sans nom d'auteur.
Chanson que nous avons ramenée de Seine-et-Oise. À Bouffémont, allons-y! Entre Paris et Pontoise, il existe aux environs un patelin en Seine-et-Oise qui s'appelle Bouffémont. Mon ami vient d'y acheter une villa et chaque été, il passe ses journées entières à Bouffémont. Il délaisse même ses affaires pour Bouffémont. Il n'a pas, je vous le certifie, d'autre ambition. Son seul plaisir dans la vie, c'est Bouffémont. Toutes les fois qu'il doit se rendre à Paris pour quelque temps, en l'embrassant d'un air tendre, je lui dis ne reste pas longtemps. Mais loin de moi, il a le cafard, et deux ou trois jours plus tard, il reprend le train d'urgence pour Bouffémont. Et pendant le trajet, il pense à Bouffémont. L'exil pour lui, c'est bien rude, le pauvre garçon, il a tellement l'habitude de Bouffémont. Comme jamais on ne se quitte, je vous jure que quelquefois, à la fin cela m'irrite de l'avoir toujours devant moi. Je lui dis va donc faire un tour, et là s'il revient toujours, il est tout le temps dans mes jupes à Bouffémont. La seule chose qu'il préoccupe, c'est Bouffémont. Des fois c'est une rigolade comme distraction, il invite ses camarades à Bouffémont. Couplet patriotique. Comme il est très sympathique, la municipalité, dans un geste magnifique, l'a fait nommer député. Et maintenant, il n'y a pas d'erreur, afin de plaire aux électeurs, faut voir comme il se démène pour Bouffémont. Mais je crains qu'il se surmène à Bouffémont. J'ai beau lui dire par prudence, mais ménage-toi donc, voyons. Et le lendemain, il recommence à Bouffémont. Soit-toi,
merveilleuse.
Le premier ouvrage à paraître sous le nom de François Augiéras est « Une adolescence au temps du maréchal et de multiples aventures » en 1967 aux éditions Christian Bourgeois. Autobiographique, il relate sa vie, ses errances et ses rencontres, de sa jeunesse sous le gouvernement français de Vichy jusqu'à 1957, où il rejoint une compagnie méhariste. De cette jeunesse, méprisant le fait politique, il en retient les opportunités offertes aux jeunes dans les premiers temps des politiques gouvernementales à destination de la jeunesse, les activités en plein air et les randonnées, le grand camping national. De toute cette vie, il lui reste une défiance prononcée pour les hominines et une mauvaise santé.
François Augiéras se complaît dans le pays vézérien. La luxuriance du Périgord sarladais se mêle à un paysage fait de cavernes profondes et de grottes. Là où furent par exemple inhumées des mâchoires d'hominines néandertaliens et les fameuses peintures murales de Lascaux. Misérable et en piètre santé, il alterne les séjours dans les hospices et les maisons de repos avec des escapades vézériennes. Les grottes autour du village de Dôme, au sud de Sarlat, sont les ultimes refuges. Il s'y livre à ses propres rituels, à des incantations que rien n'entend, et note sur ses cahiers les douces sensations de cette solitude. Sa propre expérience est au centre de son écriture, l'ortier et son haschich. Les autorités locales ne voient pas d'un bon œil la présence de cet huluberlu qui rôde torse nu dans les parages. La gendarmerie est alertée. Brièvement arrêté pour défaut de papier d'identité, il est envoyé en observation psychiatrique par les militaires qui jugent ses propos incohérents. C'est à cette période de sa vie que se situe, sous les bons auspices du Zarathoustra de Nietzsche, la rencontre cavernicole entre François Augiéras et Filaretto Cavernido, selon « Conversation à la mode » de Anne Riner, un texte attribué à F. Merdjanov. Ses projets d'écriture progressent doucement. L'un concerne ses voyages en Grèce, l'autre sa vie cavernicole à Dôme.
La non-publication de ce livre me gêne terriblement dans l'idée que je suis accoutumé de me faire au sujet de mon destin. J'ai accepté ou appelé de dangereuses aventures, toujours avec cette arrière-pensée, ça deviendra des livres. Si ça reste en manuscrit, ma vie à d'homme ne fait qu'une cruelle et bien inutile aventure.
Un voyage au Mont Athos est publié en 1970 par les éditions Flammarion. Mais, d'homme ou laissé d'occupation, le sera à titre posthume, car François Augiéras meurt le 13 décembre 1971 à l'hôpital de Périgueux. Il est enterré quelques jours plus tard, au cimetière de Dôme. Longtemps resté anonyme, à côté d'une zone délaissée du cimetière, la tombe est aujourd'hui ornée d'une pierre tombale à l'initiative de Paul Placé, afin d'éviter sa disparition.
Et la question revenait sans cesse. Qui vient de mourir? Qui s'en va dans ce silence et cette solitude? Le couvercle ne porte pas la moindre indication, aucun symbole, l'anonymat absolu. Du sapin blanc pour quelques planches, pas de fleurs, rien. Rien que ma signature sur un registre pour une reconnaissance du corps. Paul Placé, François Augiéras, un barbare en Occident.
François Augiéras a 8 ans lorsqu'il vient mettre ses pas dans ceux des premiers hommes. L'artiste complet, écrivain et peintre, sera nourri toute sa vie par l'ambiance si particulière du Périgord noir.
Il va en faire une géographie poétique, intime, vraiment personnelle. Il va s'approprier ce pays dont il parle comme d'un pays de revenants, de sorciers, un pays hanté. Et bien sûr, en arrière-fond, il y a tous ces esprits, ces hommes du paléolithique dont il perçoit les traces.
Dès lors, rien de surprenant à retrouver aujourd'hui ses œuvres au sein du Musée national de la Préhistoire. 50 ans après sa mort, le peintre y est exposé au milieu des silex, des os, des vestiges de ses temps immémoriaux.
Il s'agit de rencontres entre création contemporaine et préhistoire au sein même des collections permanentes. Donc il s'agit bien de faire une correspondance entre œuvres d'hier et d'aujourd'hui.
Personnalité controversée, aux mœurs parfois dissolues, François Augiéras pense sa vie comme une œuvre d'art. Ses créations sont loin des peintures de salon, mais beaucoup plus proches des fétiches chamaniques et des créations des artistes préhistoriques.
Parfois, il va déposer ses œuvres dans un pré, contre une paroi, à l'intérieur de grottes. Tout ça pour les charger comme un objet fétiche. L'idée, c'est de revenir à des sources anciennes, primitives, premières, pour régénérer l'art. C'est tout à fait la recherche du modernisme en art.
Voyageur et aventurier, l'artiste nourrira son œuvre de paysages d'Afrique et de berges de rivières, Niger, Weser ou Styx, à chacun de se faire son avis.
Excrément.
Dôme sera-t-il le village préféré des Français ? La Bastide, qui propose un panorama unique sur la vallée de la Dordogne, a été sélectionnée pour participer à l'émission de Stéphane Bern. Dans la rue, c'est presque l'unanimité.
Pour vous, ce serait quoi le plus beau village ?
La Roque Gajac.
Belvès.
Ah, les périgourdines sont taquines. Sérieusement, qu'ils soient visiteurs, habitants ou commerçants, ils sont plusieurs à croire aux chances de Dôme de remporter le concours.
D'abord pour la qualité de vie. Oui. Et la douceur de vie.
On a un village qui a une histoire.
Super bien restauré, il est toujours visuellement, il est quand même magnifique.
On est trop bien, les gens ils sont sympas, ils sont faciles à vivre.
C'est formidable, c'est une belle publicité pour le village qui le mérite amplement.
Pour la petite histoire, Dôme n'a pas déposé de candidature. C'est la deuxième année que le maire est sollicité par la production de l'émission. L'élu a préféré laisser passer les élections municipales avant de dire oui. Et c'est avec une certaine assurance qu'il aborde ce concours télévisé.
Si on concourt, c'est dans l'optique d'être le gagnant. Le Dôme le mérite. Alors, bon, Dôme, c'est quand même de l'ordre de 1 million de touristes par an. C'est un village classé, qui est classé depuis l'origine d'ailleurs, parmi les plus beaux villages de France, qui a concouru au village fleuri, qui a été reconnu par vos confrères du Télégraphe comme village préféré des Anglais en 2017.
L'émission sera diffusée cet été, mais c'est en ce moment que tout se joue. Les votes sont ouverts sur Internet et par téléphone.
Moi, je vote tous les jours, parce qu'on peut voter une fois par jour jusqu'au 25 mars.
Ah ouais, très motivé.
Ouais, très motivé.
C'est la quatrième fois qu'un village périgourdin participe au village préféré des Français, après Bénac, Montpazier et La Roque-Gajac, qui avaient terminé troisième en 2017, record à battre.
Sans l'intervention de l'unique hominine avec lequel il parvenait à relationner, les écrits et les peintures de François Augiéras seraient tombés dans l'oubli, détruits par la Vézère ou restés enfouis au fond d'une caverne. Paul Placé se charge de faire connaître l'œuvre de son ami solitaire et méconnu, en faisant publier plusieurs de ses écrits et participant à la mise en valeur des dessins et peintures lors d'expositions. Que la petite bibliothèque située dans la mairie de Dôme soit depuis renommée en l'honneur de François Augiéras répond à une certaine logique, la même que de nommer un centre culturel Elie Bouba Yafa. Mais qui peut sérieusement prétendre à un prix Augiéras? Qui, à part Augiéras lui-même? Et pourtant, sans imaginer un instant faire insulte à l'auteur, ce prix est décerné annuellement lors du Salon du Livre de Champcevinel, un village au nord de Périgueux, depuis maintenant une dizaine d'années.
La politique et l'art, toujours à la recherche d'inspiration et de légitimité, ont en commun la réappropriation d'hominines de leurs histoires ou de leurs pensées à leurs propres fins. Combien d'écoles Louise Michel ou de rue Louis-Auguste Blanqui? Combien d'artistes contestataires exposés dans les centres du pouvoir? Combien de spécialistes de la vie des autres? À quand l'avenue Albertine Autain ou le stade Catherine Deneuve? À Périgueux, le maire académicien de la ville propose en 2001 qu'un hommage soit rendu à François Augiéras. Une sculpture représentant des lettres enchevêtrées est réalisée par un artiste afin d'être installée devant la médiathèque municipale. Après l'inauguration de ce support à volatiles, l'œuvre s'est progressivement détériorée grâce aux fientes et aux graffitis. Malheureusement, en 2018, des travaux de restauration de la sculpture ont été entrepris. Déplacée de quelques mètres, elle trône maintenant à l'entrée de la médiathèque. Dorénavant inutile pour des volatiles qui ne peuvent y déféquer et sans intérêt pour des hominines qui ne peuvent y griffonner.
Dans des domaines différents, les adeptes des théories complotistes et autres divagations sont aussi en mesure de faire de la récupération. La vie de François Augiéras s'y prête, si l'on force le trait de ses écrits et de ses peintures. Faut-il faire un lien entre le choix des services d'espionnage français d'établir dans les alentours de Dôme leur plus grosse base secrète d'écoute et les messages que François Augiéras prétend entendre intérieurement? Est-ce un lieu d'écoute privilégié ou est-il tout simplement électrosensible? Son tableau « Balise pour centre d'écoute », qui représente deux antennes en haut d'une montagne, est-il un signe de vie extraterrestre ou un avertissement contre la 5G? Rien ne permet d'en dire plus. La protivophilie est prudente.
Moi, je travaille dans la beauté chez Monsieur Romain. Je suis masseur spécialisé dans les reins. Pour les reins, j'ai une de ses renommées. Pas de velours, je frôle à peine sans toucher. Il paraît que j'ai des doigts de feu. Quand j'ai un client entre les mains, veut pas s'en aller. Frotti, frotta, glissi, glissa, je sais masser. Pour masser, j'ai des doigts de fée. Oh, il m'aime bien, monsieur Romain. Il me dit toujours, vous massez avec foi, ma sœur. Oh, oh. Pépé, 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 pétale, on m'appelle Mister Pétale. Espace, j'ai l'air d'une fleur pâle, de toute façon, ça plaît à Jean-Loup. Pépé, 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 pétale, on m'appelle Mister Pétale. Je crois que les gens sont fort jaloux, je sois le pilou à Jean-Loup. Jaloux, 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 jaloux. Ayant une fuite au tuyau de la salle de bain, avec Jean-Loup, on a appelé notre voisin. Il est plombier, mais d'une grossièreté. En rentrant, il nous a dit salut les poupées. Sont des obscénités. Fumé craché partout, Jean-Loup lui fit remarquer. Frotti frotta, glissi glissa, nous a boxé. Je me suis retrouvé la tête coincée dans le bidet.
Oh, quel méchant alors. Ils avaient mes deux petits poings cripsés. S'ils avaient pu, je l'aurais griffé. Pépépépépépépétale, on m'appelle Mister Pétale. L'espace, j'ai l'air d'une fleur pâle, de toute façon ça plaît à Jean-Loup. Pépépépépépétale, on m'appelle Mister Pétale. Je crois que les gens sont fort jaloux, je sois le pilou à Jean-Loup. Jaloux, 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 jaloux. Pour mes costumes, j'ai un petit tailleur épatant. Ces essayages, c'est du régal, ils durent longtemps. Avec ses doigts, quelle légèreté. Patte de velours, je suis sensible à ses ourlets. Y'a que ses ciseaux qui m'apeurent. Ça plotte au point si par hasard il vient à me piquer. Le cœur meurtri, plein de désarroi, il me dit navré. Pardon ma sœur, si j'ai piqué votre dignité. Oh, 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 ben je savais pas que ça s'appelait comme ça. Oh, quel tailleur. Pour mon costume, il m'a fait 17 essayages. Après, il était tellement fatigué qu'il est parti en vacances chez Monsieur Trigano, dans un village de tente. Pépépépépépétale, on m'appelle Mister Pétale. L'espace, j'ai l'air d'une fleur pâle, toute façon, ça plaît à Jean-Loup. Pépépépépépétale, on m'appelle Mister Pétale. Je crois que les gens sont fort jaloux, je sois le pilou à Jean-Loup. Jaloux.
Sur rien, c'est sur Radio Kifik. Le mercredi à 12h et le dimanche à 17h.